ceaiul aptut.
Mă cheamă și mă și Gagudu.
Mama, cheamă-te Ilan Caur.
Te iubesc.
Nghe canule.
Khoai hạt châu.
Khnyom sro lành na.
Les 19 et 20 mars aura lieu à Lille le Festival des Langues. Donc pour nous présenter ce festival, Jean-François Pirat, qui est vice-président de No Man's Langue, et Audrey Michonneau, coordinatrice donc de ce festival. Bonjour.
Bonjour.
Donc un festival qui est à sa combientième édition ?
Sixième édition.
Voilà, et donc qui s'inscrit dans la durée.
On espère que ça va durer beaucoup plus longtemps que 6 fois.
Donc ce festival est porté par une association qui s'appelle...
Alors l'association s'appelle No Man's Langue.
Et son but ?
Alors son but, c'est de promouvoir l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge.
Il y avait une motivation au départ d'un groupe de personnes, on peut peut-être les présenter ?
Alors d'un groupe de personnes qui étaient tous impliqués dans les langues, pas de façon professionnelle, mais parce que chacun avait des origines non françaises, et aussi parce qu'on s'était tous retrouvés dans différents cours de langue, et tous autour d'une même personne qui tient une librairie, qui vend des livres en version originale, qui s'appelle la librairie Veaucht, que beaucoup de gens connaissent, qui est située à Lille, rue de Tournai. On a fait un constat tous, c'est que... Aujourd'hui, beaucoup de gens disaient encore que les Français étaient très mauvais pour les langues. Et nous, on pensait que c'était exactement l'inverse, que c'était une idée reçue. Et à partir de là, on a monté une association, on voulait prouver l'inverse. Et le premier objectif, ça a été de monter un festival. Et aujourd'hui, on en est à la 6e édition.
Voilà, donc l'idée, c'est de, on va dire, un peu réconcilier les Français avec les langues, peut-être, ou dédramatiser la problématique.
Dédramatiser, effectivement, et les réconcilier, évidemment, et abandonner toutes les idées fausses, puisque l'apprentissage des langues, c'est avant tout quelque chose de ludique, un jeu, et c'est assez facile si, effectivement, on dédramatise.
J'aime bien quand vous disiez tout à l'heure, dès le plus jeune âge, c'est vrai qu'on a plus de facilité quand on est jeune.
Oui, effectivement, parce que tout simplement, on n'a pas le temps de dramatiser. On ne se surveille pas comme un adulte se surveille. Et un enfant n'a pas peur de faire des fautes, puisque c'est logique de faire des fautes. Il essaye, lui. Et malheureusement, quand on est adulte, on a tendance à ne pas essayer parce qu'on a peur d'être ridicule. On n'est jamais ridicule. Je crois qu'il faut que chacun prenne conscience que quand on est à l'étranger, l'étranger avec qui vous parlez ne va pas du tout se moquer de vous parce que vous faites des fautes.
Il y a des pays où on aide plus facilement les gens qui ne parlent pas la langue. On parle plus doucement, tout ça. Et d'autres, on prend moins de précautions.
Alors, il y a des pays, effectivement, où c'est vrai. Je crois aussi que ça dépend des personnes que l'on rencontre et dans quel contexte. Alors, effectivement, dans un secteur très touristique, on peut dire que, d'une façon générale, on n'aide pas forcément les gens. Et je crois que y a un véhicule commun qui est l'anglais. Et tout le monde exige que ce soit l'anglais qui soit parlé. Mais il est vrai aussi que dans d'autres pays, dès que vous faites l'effort... moi, je parle de la Grèce, par exemple, puisque je parle un petit peu grec... Et quand vous allez en Grèce, dès que vous prononcez 3 ou 4 mots de grec, les Grecs sont ravis et ils vous accueillent très très bien.
Est-ce que les Français jouent le jeu également ? On a dit que parfois les Français considéraient que tout le monde devait parler le français, les étrangers ne sont pas forcément bien compris, enfin on ne respecte pas forcément le fait qu'ils aient ce décalage.
C'est difficile à dire parce que je crois qu'il y a différentes catégories de gens, il y a ceux effectivement qui n'acceptent pas, qui pensent que tout le monde doit parler le français. Moi, j'ai jamais fait partie de cette catégorie-là, donc je ne sais pas Audrey, est-ce que toi, tu as rencontré, est-ce que tu as eu cette attitude face aux étrangers, il faut parler français ?
Non, pas du tout. La seule chose, c'est que quand un étranger vient en France et qu'il est là pour apprendre le français, je lui parle en français parce que c'est lui faire du bien, c'est l'aider. Après, si quelqu'un ne désire pas apprendre le français, mais plutôt est là par sympathie, moi, de moi-même, qui aime les langues, qui aime apprendre les langues, je me débrouille pour apprendre quelques petits mots, pour être sympathique et pour que la personne se sente bien dans mon pays et se sente bien accueillie.
Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu as dit, parce que c'est vrai, on peut constater que dans différents pays, il y a des gens qui ont tendance à créer des communautés. Par exemple, il y a des pays plus latins, quand ils viennent en France, ils ont moins tendance à s'insérer dans la population française et ils recréent des groupes. Mais je pense que les Français font exactement la même chose à l'étranger. Puis il y a toute une catégorie de gens, parce que ça, c'est pas... On va pas dire que c'est systématique, c'est-à-dire que c'est des tendances, mais il y a aussi toute une catégorie de gens dont j'espère faire partie, qui n'a pas le besoin, qui ne ressent pas le besoin quand il est à l'étranger. Bien au contraire, parce que quand je suis en vacances à l'étranger, j'ai pas du tout envie de voir des Français.
C'est l'esprit communautaire, oui.
Est-ce que la région Nord-Pas-de-Calais est très accueillante dans ce domaine ? Est-ce qu'on respecte l'étranger, justement ? Est-ce qu'on le favorise ? On favorise son intégration ?
Je crois qu'elle est connue pour ça. Je crois qu'elle est connue pour ça, parce qu'il y a quand même un nombre incroyable de communautés. On ne peut pas dire que ça a toujours été facile au départ, et que pour certaines communautés, ça reste encore difficile. Mais il n'empêche que le Nord-Pas-de-Calais est réputé pour être une... parce qu'elle brasse beaucoup de populations, et que plus on brasse de populations, plus on a tendance à l'accepter, à l'accueillir plus facilement.
Et plus on est ouvert.
Mmh. C'est vrai que c'est un carrefour, c'est une banalité de le dire, mais c'est vrai que c'est un grand carrefour entre les pays anglo-saxons, un peu les pays du Benelux et puis le reste de la France. C'est une région très touristique, la région Nord-Pas-de-Calais, quatrième région touristique de France.
Oui, et c'est aussi une terre d'immigration.
Aussi, bien sûr.
Donc clairement, effectivement, on est toujours confrontés, enfin chacun d'entre nous régulièrement, dans notre vie tous les jours, pas forcément professionnelle, soit à l'étranger, soit à celui qui est d'origine étrangère et qui, à un moment ou à un autre, vous parle de ses racines ou de la culture de ses grands-parents ou de ses parents. Et donc ça, c'est un point important. Moi-même, j'en fais partie. Donc, je fais partie des gens qui ne revendiquent pas, mais pensent que c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité. Je pense que pour toutes les autres personnes, ça doit être le cas.
C'est une richesse.
Alors, cet apprentissage des langues, il se fait parfois à l'école. On l'a dit tout à l'heure, quand on est jeune, c'est plus facile et les méthodes sont certainement très différentes entre apprendre une langue étrangère à un adulte, voire à un senior. Hein. Beaucoup se lancent parfois tardivement.
Il y en a beaucoup.
Et un enfant qui a une autre façon de recevoir la langue étrangère.
Alors les méthodes sont effectivement très différentes, mais je pense qu'aujourd'hui les méthodes ont clairement changé et qu'on est, pour des adultes ou des seniors, dans des méthodes très communicatives. On met les gens en situation, voire carrément presque en immersion, même si on est dans notre pays. Ce sont des méthodes qui sont plus clairement orientées vers l'obligation de communiquer et non pas vers une culture plutôt, vers une méthode plus livresque ou plus... Moi, je sais que quand j'ai commencé les langues il y a quelques années, quand j'étais étudiant en langue, je ne pouvais pas me débrouiller dans la rue quand j'étais à l'étranger. Mais en revanche, je pouvais lire certains grands auteurs en langue étrangère.
Ouais.
Et aujourd'hui, ce n'est plus exactement le cas, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, on a comblé cette lacune. Mais il n'empêche que quand on est étudiant en langue, à un moment donné, on maîtrise la langue. Et il faut aussi bien s'orienter vers l'aspect culturel, ce qui me semble très important, puisqu'une langue, c'est aussi une culture.
Mm-hmm. Alors, il y a aussi beaucoup de séjours en immersion dans la langue d'origine qu'on apprend, hein, dans le pays d'origine de la langue. Effectivement, le rapport à l'étranger favorise l'apprentissage. On est directement obligé de communiquer dans la langue.
C'est l'obligation qui donne un plus à l'apprentissage des langues. Toi, tu peux en parler parce que Tu as déjà été en situation d'immersion, Audrey?
Oui, tout à fait. Alors après, il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a différents types de séjours linguistiques. Moi, ce que je revendique, par exemple, c'est ce que j'ai pu vivre quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire un séjour où le matin, vous avez cours dans une structure scolaire et l'après-midi, des activités. Le principe était qu'on ne mélange pas les nationalités, enfin qu'on mélange les nationalités, pardon. C'est-à-dire que il n'y a pas deux Français, deux Italiens, deux Allemands dans une même salle. Donc on est un petit groupe de 10-12. Tout le monde est de nationalités différentes. Donc tout le monde parle dans la langue qu'il doit étudier. Et ouais, on n'est pas tenté de parler avec son voisin dans la langue française ou autre. Donc ça, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je conseille à beaucoup de parents pour leurs enfants.
Et pour les adultes aussi, parce que moi je l'ai vécu en situation d'adulte. J'ai vécu il y a 8 ans. En Sicile, dans une villa, donc c'était une école, hein, donc un séjour linguistique. C'était dans une villa où j'avais pas de français, on était 10, on partageait la villa. Donc j'avais un Polonais, un Américain, il y avait des Autrichiens, enfin il y avait pas mal de langues qui étaient représentées. Et la seule langue commune qu'on avait, c'était la langue du pays où on était. Et donc là, on est dans l'obligation pour communiquer. Et dans les choses les plus simples, hein, puisque quand on partage une villa à 10, il faut s'entendre sur les tâches ménagères, il faut s'entendre sur tout. Alors, on ne parle pas que de culture, là, en l'occurrence. Mais si, parce qu'en fait, il y a des modes de fonctionnement qui sont totalement différents. Donc, finalement, on parle aussi de culture.
Tout à fait.
Et donc, c'est bien dans ce genre de situation. Alors, bien évidemment, après, c'est rectifié par l'école dans laquelle vous êtes. Parce que vous êtes en situation d'immersion, dans l'obligation de communiquer, mais avec des locuteurs qui ne sont pas des locuteurs natifs. Ensuite, vous avez le complément qui vous permet justement d'être dans une situation où vous avez des locuteurs natifs qui vous corrigent et qui vous font progresser.
Alors, est-ce que le fait que l'anglais soit maintenant considéré un peu comme une langue commune, hein, on voit dans la communauté universitaire, c'est évidemment le cas, ça ne risque pas de compromettre la pratique et surtout le plaisir de la pratique des langues étrangères?
Je crois qu'il y a deux choses différentes. Il y a, si on considère l'anglais, alors l'anglais peut être considéré comme une langue utilitaire. Donc qui permet effectivement à des gens qui ne parlent pas de langue commune de se comprendre et de communiquer, mais ils ne font que communiquer.
C'est une facilité.
C'est une langue utilitaire. Après, il y a aussi l'anglais qui est une langue culturelle. Donc il y a deux façons d'apprendre l'anglais, soit parce qu'on considère que l'anglais est indispensable pour pouvoir communiquer dans un contexte professionnel ou quand on est touriste. Et il y a une autre façon d'envisager l'anglais, comme on envisage l'italien, comme on envisage le japonais, c'est aussi d'apprendre une culture. C'est deux modes différents. Je pense que les deux se complètent. Mais clairement, nous, on ne parle pas de l'apprentissage d'une langue utilitaire. Pour nous, ce qui est important, c'est de mettre en parallèle la langue et la culture.
Alors, dans ces langues, certaines prédominent. On pourrait parler aussi de l'espagnol, qui est très répandu dans le monde.
Oui, très répandu dans le monde. Mais disons qu'elle n'a pas cette étiquette utilitaire qu'a l'anglais. Mm-hmm. Donc c'est une langue effectivement très répandue, très étudiée. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte, parce qu'on a fait un concours BD multilingue, dont on est en train de recevoir les résultats au niveau des planches, hein, du travail des élèves. Et il y a quand même la majorité des groupes ont choisi l'espagnol dans ce concours BD. Mais bizarrement, ils ont aussi choisi l'italien majoritairement aussi. Donc, comme quoi, toutes les langues se valent. Et je crois que quand on considère qu'une langue n'est pas utilitaire, il y a une passion pour une langue. Et bizarrement, dans le travail que vont rendre les élèves qui ont participé au concours, il y a très très peu d'anglais.
Alors, c'est vrai que dans les langues latines, bon, c'est peut-être plus facile entre pays latins d'apprendre la langue des voisins. Quand on passe au chinois, au vietnamien ou au japonais, c'est peut-être un peu plus compliqué.
Alors, c'est plus compliqué au début, ça c'est clair. Pour les langues latines telles que l'espagnol ou l'italien, c'est plus facile au départ parce qu'en fait, on est en terrain de connaissance. Mais c'est là, à un moment ou à un autre, quand on veut maîtriser la langue, c'est là où est la difficulté parce que vous n'êtes pas dans le même système. Or, vous avez plein d'équivalences et il faut absolument oublier les équivalences. Or, quand vous êtes dans une langue comme le chinois ou le japonais, le début est extrêmement difficile. Et je parle notamment du chinois, pas du japonais, mais du chinois avec les tons, ou qu'on n'entend pas, nous, en tant que locuteur français. Le japonais est un peu plus simple.
Tout est relatif.
Mais après, vous avez des gens qui ont eu d'énormes difficultés au départ et qui ensuite se débrouillent très bien parce que la complexité est au début. Par exemple, en chinois, vous avez une succession de mots qui ne sont pas et on ne conjugue jamais. Alors évidemment, vous ne vous retrouvez pas au début. Mais après, quand vous avez compris la construction, etc., tout le travail aussi de l'apprentissage de l'écriture, etc., les choses deviennent plus faciles, alors que d'autres langues où c'est plus facile au départ, ça devient complexe après.
Donc Audrey Michonneau, vous coordonnez ce Festival des Langues, donc durant 2 jours, vous attendez beaucoup de public, mais qui seront les exposants ?
Alors parmi les exposants, on a des institutions culturelles, comme le Goethe-Institut par exemple, on a des instituts culturels, des associations culturelles, qui sont généralement régionales d'ailleurs, comme des associations italiennes, des associations berbères. On essaye d'avoir une diversité, c'est-à-dire de ne pas proposer que de l'anglais, que de l'allemand, que de l'espagnol. C'est trop simple. On essaie vraiment d'avoir une diversité.
Il y a aussi des organismes de séjour linguistique, des organismes de formation, des éditeurs, des libraires. Il y a aussi d'autres organismes qui proposent des prestations linguistiques. C'est pas seulement des formations, mais ça peut être aussi des sites internet qui proposent soit de l'apprentissage en ligne, mais aussi des informations sur des pays, etc. Il y a aussi l'université qui est présente avec ses sections de langue. Il y a le QEP qui est présent. Il y a le FCEP qui est présent. En fait, il faut quand même dire qu'il y a aujourd'hui plus de 100 exposants qui vont être présents. L'année dernière, on était à 82 exposants. Donc chaque année, on a de plus en plus d'exposants. Il y a Radio Campus qui sera là.
Absolument.
Voilà. Il y a aussi des gens qui représentent le Picard, tout le monde peut y trouver son compte. Ça présente toutes les dimensions, qu'elle soit la dimension économique, c'est-à-dire que pour certains, l'apprentissage d'une langue, c'est aussi l'apprentissage d'un métier ou l'apprentissage d'une carrière. Pour d'autres, les langues, c'est la découverte d'une culture. Pour d'autres, les langues, c'est simplement le point de vue utilitaire. Je veux aller à l'étranger, donnez-moi des informations et comment aussi puis-je me débrouiller dans tel pays. Vous avez des consulats qui seront présents. Donc, il y a une délégation des consulats de Lille qui sont présents, qui sera présente. Je crois que chacun peut trouver toutes les informations, peut aussi se tester en langue, peut aussi participer à des tables de conversation, assister à des animations, puisqu'il y a des conférences. Donc, c'est clairement, vous avez un choix assez important.
Voilà, donc on va rappeler que ces 2 journées donc, démarrent pour le public à 9h.
Oui.
Jusque
19h. Donc, il faut dire une chose qui est extrêmement importante, c'est entrée libre. Donc, c'est gratuit.
D'accord. C'est pas cher, alors.
Voilà, c'est pas cher.
Très bien. Donc, que ça se passe à la Chambre de commerce et d'industrie de Lille, donc, à côté de l'Opéra. Et donc, vous attendez, comme l'année dernière, le même nombre de publics ou?
En plus.
Plus.
L'année dernière, c'était 5700 et quelques, je crois. On espère atteindre les 7, 8 000. Hein. Notre rêve, c'est d'avoir 10 000 personnes.
Vous visez quel type de public exactement? Vous avez une idée par rapport à l'année dernière? Est-ce que vous faites aussi évoluer ce public? Comment vous sentez les choses cette année?
On essaie de faire évoluer le public parce que le public... c'est très difficile de connaître son public, hein, clairement, surtout quand il est de l'ordre de 5 000 ou 6 000. Savoir quel est le profil type du public, je pense qu'il est quand même très divers. Il y a un public qu'on a toujours un peu de mal à toucher et qu'on espère voir cette année. On a essayé de faire une programmation qui permette justement d'avoir ce public. C'est le public étudiant. Donc c'est un public qui pour nous est important. On a les scolaires, donc ça c'est pas... Le vendredi, on a une journée qui est un peu consacrée aux scolaires, pas qu'aux scolaires, mais donc là, les collégiens, les lycéens, même les maternelles, ce public-là, on sait comment le faire venir. Alors, il y a un certain nombre d'animations qui sont proposées aux étudiants. Je pense qu'il y a le concert de clôture qui est destiné plutôt aux étudiants. Tu peux en parler, Audrey?
Donc, samedi soir, à partir de
19h.
Donc, c'est un concert indie pop allemand. Le groupe s'appelle Tosca and the Smooth Bros. Et donc, c'est pour le concert de clôture du Festival des Langues, le samedi 20 mars à 19h.
Donc là aussi, l'entrée est gratuite.
Là aussi, l'entrée est gratuite.
Et qui nous amène à quelle heure dans la soirée?
Le concert va durer environ une petite heure, voilà. Donc jusque 20h à peu près.
On va dire une heure et demie.
Bon, on va dire une heure et demie.
Donc, si j'ai bien compris, pour le public, il n'y a pas besoin de réserver.
Tout à fait, voilà, oui. À part pour certaines animations...
Oui, pour certaines animations, c'est soit réservé aux scolaires, soit réservé à un public déjà initié en langue. Et donc là, c'est clair, c'est des ateliers, par exemple, de langue pour des gens qui ne sont pas débutants. Là, on demande sous réservation. Il y a des ateliers de cuisine, et là, c'est forcément sous réservation parce qu'il y a les ingrédients achetés, etc. Donc, on a besoin de savoir le nombre de personnes à l'avance. Mais pour tout le reste... c'est totalement libre. Et donc pour le concert du samedi, c'est entièrement libre, donc entrée gratuite. La même chose pour le spectacle qui a lieu la veille, le vendredi soir à 19h, qui est lui aussi en entrée libre, gratuit, où on va accueillir une troupe de la République de Touva, une délégation qui va faire un spectacle très haut en couleur parce que ça mêle un certain nombre de particularités propres à la République de Touva, c'est-à-dire que vous allez avoir du chant diphonique dans un spectacle qui est aussi un défilé de mode, donc qui va représenter un peu les particularités de l'habit des steppes orientales. Vous allez avoir donc du chant diphonique en même temps, vous allez avoir aussi une présentation de cérémonie chamane. Et vous allez avoir aussi un ensemble folklorique donc très très connu qui est constitué de jeunes. Et donc tout ça crée un spectacle. Hein. Ce n'est pas différentes prestations, c'est un spectacle dans son ensemble qui mélange ces différents interprètes. Et donc c'est la République de Touva. Alors tout le monde ne connaît pas la République de Touva. Donc la République de Touva, j'ai fait mon petit point parce que non plus je ne connaissais
ça
pas.
Ça serait utile. Oui.
C'est une ex-république de l'URSS qui est située au sud de la Sibérie. Mm-hmm. Donc c'est tout près de la Mongolie. Donc c'est je parlais tout à l'heure des steppes orientales. Bon, on est en plein dedans.
Il y aura aussi une conférence qui est prévue.
Alors il y a plusieurs conférences de prévues, mais surtout une conférence qui intéresse véritablement les étudiants en langue. De Lille et de la métropole lilloise. Donc le titre de cette conférence, c'est « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». C'est extrêmement important pour les étudiants en langue. Comme intervenant, il y a des personnes qui font partie de la Commission européenne et notamment de la Direction générale de l'interprétation. Il faut savoir que la Commission européenne est à la recherche de 200 interprètes. Elle recrute actuellement. Elle a une période de 6 ans à peu près de recrutement. Car à cause du baby boom, non pas à cause du baby boom, mais les baby boomers partent à la retraite. Mmh. Voilà. Et donc, il est très important pour les étudiants en langue, s'ils souhaitent s'orienter vers une carrière ou de traducteur ou d'interprète, eh bien de venir à cette conférence parce que c'est un moyen de prendre contact avec la Commission européenne, ce qui n'est pas forcément simple. Mmh. Et puis d'envisager une carrière.
Donc des perspectives d'emploi.
Des perspectives d'emploi. 200 interprètes français sont en recrutement. Ils recrutent dans tous les pays, mais là, en l'occurrence, pour la France, c'est 200.
Merci Jean-François Pirin, merci Audrey Micheneau. On va rappeler donc peut-être un site web où on aura des informations complémentaires, je pense.
Alors, extrêmement important, parce que là, vous allez avoir le détail de tout le programme et des exposants. festivaldeslangues.org. Donc, festival des langues tout attachées.org.
Donc, avec tout le programme, les intervenants.
Alors, tout le programme du vendredi et du samedi, avec tous les exposants, donc vous avez une centaine d'exposants, et pour la programmation, bah, heure par heure, vous avez le détail des programmations, des conférences, des spectacles, des ateliers, des animations.
Voilà, donc rendez-vous les 19 et 20 mars pour ce Festival des langues 2010. Merci Jean-François Pirat, merci Audrey Micheneau.
Merci, au revoir.
Merci à vous.